étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime.
Bien-aimés en Christ, shalom à vous qui nous suivez ici à Lomé, un peu partout dans le monde entier. Nous sommes ravis d'être avec vous cet après-midi dans cette émission Études sur Cantique. Études sur Cantique est une émission qui a pour objet de commenter les mots d'un chant ou d'un cantique chrétien. Et pour ne pas déroger à cette règle, nous aurons, avec le concours de l'autre Laurent, à commenter ce jour un chant qui est intitulé « Voir son Sauveur face à face ». Je vous laisse écouter la chanson.
Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Oh, qu'elle transporte l'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Présence, je serai semblable à toi.
La chanson qu'on aura étudiée dans cette émission de ce jour. Nous allons ensemble vous lire les paroles de cette chanson « Voir mon Sauveur face à face ». Un chant qui est constitué de 3 strophes et d'un refrain. « Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce ». Ô bonheur, félicité. Je lis le deuxième couplet. Ô quel transport d'allégresse Quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourrai pour toi. Le troisième couplet, ta gloire est encore voilée. Ah, d'un voile ensanglanté, bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Le refrain dit ceci, oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours, en ta présence, je serai semblable à toi.
Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. L'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.
Avec l'autre Laurent de l'autre côté, vous savez très bien qu'il est chargé de commenter les chansons, de commenter les vers du cantique que nous écoutons sur cette fréquence dans cette émission. Alors l'autre Laurent, bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment vas-tu?
Oui, ça va.
On ne tient pas la grâce.
Hein? Mm-hmm.
Ok, on va y aller. L'autre Laurent, qui est l'auteur de ce cantique? Et que sait-on de lui?
Alors, là, il faut avouer que le cantique, à l'origine, était en anglais. D'accord? L'original est l'œuvre de Carrie Ellis Breck. Et le titre, dans l'original, est Face to Face with Christ. C'est l'original.
Okay.
Hein?
D'accord.
Et Carrie est née le 22 janvier 1855 dans le Vermont. Elle a été élevée dans un foyer chrétien, s'est installée plus tard à Vineland, dans le New Jersey, puis à Portland, dans l'Oregon. Elle a écrit des vers et de la prose pour des publications religieuses et domestiques. En 1884, elle a épousé Frank Breck. Et elle a à son actif entre 1400 et 1500 hymnes.
Waouh.
Ouais. Bien, maintenant, la version française, elle est l'auteur, hein, le parolier, l'auteur du terme de lyrique, oui. C'est Charles Roche-Dieu.
Ok.
Et le compositeur-auteur est Sébastien Demery.
Ok.
Et lui, il vit à Montréal. Il est fils d'un directeur musical d'église, dont son père est directeur musical d'église. Il a appris les rudiments de la musique dès son jeune âge et par la suite, il a décidé de poursuivre ses études dans le domaine musical. Et contrairement à plusieurs artistes, lui, il a débuté sa carrière musicale comme réalisateur et directeur musical en tournée auprès de nombreux artistes gospel de la francophonie. D'accord, il n'a pas commencé à chanter, mais il jouait le rôle de réalisateur et directeur. En 2005, après plusieurs années d'expérience en studio et sur la route, il amorce sa carrière solo et livre en 2006 son premier album en anglais intitulé Searching. Alors, comme il a voulu se connecter au public francophone, il enregistre quelques albums en français, ce qui le mènera en 2010 à commencer une collection d'albums intitulée Héritage. Il habite au Québec, il est marié et il a 3 enfants. Notons qu'il est pleinement impliqué dans la musique de son église locale. Voilà.
Ok, je parie, l'autre Laurent, que la chanson, la version française est une adaptation.
Bien entendu.
Ce n'est pas tout à fait ça en anglais.
Bien
sûr,
comme toujours.
Ok, d'accord. Très bien, on va y aller. On va d'abord réécouter le cantique, juste la première strophe. Et on va essayer de commenter cette partie de la chanson qui nous dit ceci.
Mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité.
Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Voilà le chant, le cantique qui commence avec ce désir intense qu'exprime l'auteur. Il veut voir son Sauveur face à face. Qu'en dis-tu?
Oh, tu sais, la vie chrétienne, c'est fondamentalement une vie spirituelle, c'est une relation entre l'homme nouveau, que l'Écriture appelle la nouvelle création, l'homme nouveau et son sauveur dès ici-bas.
D'accord.
Et l'aboutissement, c'est qu'en fin de compte, cet homme ou cette femme sauvée par Christ, qui a commencé à développer une relation avec Christ, finira dans la maison du Père. Donc, pas fini, ça deviendra une relation familiale. C'est tout à fait normal pour un enfant de soupirer après la maison familiale. Mais il faut pas oublier le fait que tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus n'entreront pas forcément au ciel. Ça, c'est fondamental. Matthieu chapitre 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc la condition, c'est de faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Où se trouve la volonté du Père? La volonté du Père se trouve dans la parole de Dieu. Donc vous savez, quand vous connaissez la destination de votre trajet, de votre voyage, vous n'allez pas vous laisser distraire par les les tournants, les bifurcations qu'il y a sur la voie. Hein. Mmh. Vous savez où vous allez. Mmh. D'accord? Mmh. De la même façon, lorsque vous connaissez les conditions d'accès pour entrer au ciel, vous allez faire preuve de sérieux dans les préparatifs pour pouvoir rencontrer le Seigneur un jour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul nous dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. En d'autres termes, lorsque nous quitterons ce monde et que nous rentrerons dans l'éternité, là, il n'y aura plus de limitations. Là, il n'y aura plus d'obstacles. Nous aurons une vue parfaite du ciel, une vue parfaite de la personne du Seigneur, et nous comprendrons alors en ce moment, pendant que nous étions sur terre, comment est-ce que le ciel nous regardait, comment est-ce que le ciel nous voyait, d'accord? Parce que le ciel a la meilleure perspective de notre personne, de notre vie. Donc, c'est de l'autre côté que nous prendrons connaissance de façon parfaite de qui Jésus est, de qui nous avons été même ici-bas, et de qui nous serons en étant à ses côtés.
Très bien. L'autre Laurent, je comprends par ton explication tout à l'heure que ce qui est dit ici dans cette partie de la chanson nous réfère à voir le Seigneur dans le ciel. Bien, est-ce que, étant ici-bas, nous pouvons faire l'expérience de voir notre Sauveur face à face? Est-ce que cela peut-il arriver?
Oui, dès maintenant.
Ici.
Oui, bien sûr.
Ici et maintenant.
Oui, oui. Oui,
en
parce que
dans ce corps, est-ce possible?
Oui, c'est possible.
En quoi faisant?
Cela dépend de notre intimité avec lui.
Oui.
C'est-à-dire que ce qui se passe à la conversion, l'Esprit de Dieu vient résider. D'abord, il restaure notre esprit humain qui, du fait de la chute d'Adam et d'Ève, est mort, inactif. D'accord? Il vient redonner vie à notre esprit humain. Et dès ce moment, nous prenons conscience des réalités spirituelles. Alors, l'Esprit de Dieu, maintenant, établit le pont entre nous et le Seigneur, et le ciel, et la gloire. Et c'est lui qui décide, selon que le Père veut, et instruit Jésus. Jésus le dit au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit établit maintenant, aujourd'hui nous parlons de connexion. D'accord? Établit la connexion entre notre esprit et le domaine spirituel. C'est en ce moment alors que nous avons des révélations, des visions, et les révélations et les visions sont tout à fait normales pour une personne qui est convertie. D'accord? C'est tout à fait normal. De la même façon que, humainement parlant, nous avons nos cinq sens, et nous mouvons, nous agissons, nous avons l'être, le mouvement et la vie à partir des cinq sens, en esprit aussi, notre être spirituel vit et a aussi ses composantes, ses différentes entités, ses différentes parties qui lui permet maintenant de fonctionner. Donc c'est tout à fait normal qu'un enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, puisse avoir des révélations, parce que les révélations sont en réalité le langage de l'esprit, c'est le moyen de communication de l'esprit. Ça peut être une vision, ça peut être quoi, un songe, vous êtes en train de dormir, ou ça peut être vous entrez en transe, ces choses, la Bible en parle de long en large. Hein. Le tiers de la Bible est le résultat de visions, de révélations que des gens ont reçues. Donc, aujourd'hui, c'est tout à fait normal.
D'accord. Donc, on peut voir le Seigneur aujourd'hui, notre Sauveur, face à face. Et il dit quelque chose qui est important. Il dit, voir mon Sauveur. Il insiste sur ça, mon Sauveur, face à face. Et donc, il reconnaît que Jésus est son Sauveur.
Oui, oui.
S'il n'est pas son Sauveur, il n'est pas possible qu'il puisse le voir face à face.
Non.
C'est ça? Et il dit également, voir Jésus dans sa beauté. Mon Sauveur, Jésus dans sa beauté.
Oui.
Et c'est pas si tu as encore quelque chose.
Oui, mais
à dire.
Quand on parle de la beauté du Seigneur, c'est pas l'esprit que l'on peut percevoir cela.
Ce n'est pas la beauté physique?
Non, quand on parle de sa beauté, la beauté physique, quand il était sur terre, qui il était, s'il veut, il peut te montrer comment il était quand il était dans les plaines de la Palestine, oui. Tout ça là. Il peut te montrer. Oui. Mais ce qu'il est maintenant, oui. dans la gloire, oui. il peut aussi révéler.
Oui.
Il choisit lui-même la manière de se révéler. Mm. Mais dans tous les cas, lorsqu'il se révèle à nous, nous avons en nous cette conviction que ça là, c'est le Seigneur.
Mm. Mm-hmm. Et l'autre, Laurent, ce que j'ai remarqué également, tous ceux-là qui ont eu la révélation, quand ils voient Jésus, quand ils en parlent, ils disent que
il n'y a pas de mots, il
est très beau et qu'il n'y a pas de mots pour exprimer
pour sa
beauté.
Oui, oui.
D'accord. Mm-hmm. Donc notre Seigneur est vraiment magnifique.
Ouais.
Très bien. On va y aller avec la partie refrain de la chanson, mais là on écoute le premier couplet et le refrain. On y va.
Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.
Dans le refrain, voilà les paroles du refrain. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ce qui me marque ici, c'est la certitude qu'il a de voir le Seigneur Jésus.
Mmh.
Il est certain, il ne doute pas.
Ouais.
Pourquoi cette certitude? Est-ce que c'est ça? Peut-on être certain à 100% de voir Jésus?
Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, en tant qu'être humain, un enfant qui rentre à la maison et que peut-être le père a appelé par téléphone entre-temps, il sait que quand il va rentrer à la maison, il verra son papa. D'accord? Ça, c'est l'enfant qui veut voir son père. C'est tout à fait normal. Tu vois, le fils prodigue, quand il s'est égaré, à un moment donné, il a décidé de retourner où?
À la maison.
À la maison.
Pour voir son père.
Voilà. Donc, en chaque enfant de Dieu, réellement converti, il y a ce désir-là de vouloir voir le père. De retourner à la maison, d'aller auprès du Seigneur. Donc, quand ici l'auteur dit... je te verrai divin roi. Ça, c'est pas étrange, hein, en réalité, c'est pas étrange. Quand on lit le Nouveau Testament, je vais lire 1 Jean chapitre 3, par exemple, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire que quand vous regardez un chrétien, même quand les chrétiens se regardent, ils ne peuvent que voir l'aspect physique. D'accord? Ce n'est pas parce que quelqu'un est converti que du jour au lendemain, sa couleur de peau va changer. D'accord? Un blanc caucasien qui s'est converti ne va pas devenir un noir. Et un noir converti ne va pas devenir un blanc. J'ouvre une parenthèse pour dire, pour ceux qui se décapent la peau, surtout les femmes qui font ça là, l'écriture n'approuve pas ces genres de comportements. Nous devons nous laisser tels que nous sommes, tels que Dieu nous a créés. Vous n'avez pas besoin de changer la couleur de votre peau. En le faisant, en réalité, c'est la preuve d'une insuffisance. Hein. C'est une question d'estime de soi. Vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Je ferme cette parenthèse-là. Je reviens au texte. Donc, quand un chrétien regarde un autre chrétien, il ne voit qu'un homme, un être humain. Ça, c'est tout à fait normal.
Quand le monde nous regarde, nous sommes juste quoi, des citoyens qui ont choisi de suivre une certaine religion et tout cela. C'est ce que l'auteur est en train de dire. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, tu vois la certitude, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi? Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Adam a perdu cette image et cette ressemblance-là. Et quand Christ est venu, une œuvre nouvelle a été faite. C'est justement pour cela que, comme à la création, il avait soufflé dans l'homme pour qu'il devienne une âme vivante, il a soufflé dans les disciples pour qu'ils reprennent cette vie-là avant le baptême du Saint-Esprit. Tu vois un peu? Donc, là, cette ressemblance que nous avons avec le Seigneur est le fait que nous sommes issus de lui, nous sommes de sa création. Bon, pour tous ceux qui n'acceptent pas Christ aujourd'hui, qui ne veulent pas se convertir, ils n'ont pas cette ressemblance-là, ils ne l'auront pas. D'accord? Et donc, ici, c'est dès ici, dans ce monde-là, que, individuellement, nous nous préparons en menant une vie qui honore Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulons un jour, non seulement lui ressembler, mais le voir face à face. Dans Romains chapitre 6, verset 22, il est dit, « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Tu vois, beaucoup de gens connaissent Jean chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais à la vie éternelle. » Mais ici, Paul est en train d'apporter un peu plus d'éclaircissement. Après avoir cru en Jésus, vous avez une responsabilité, j'ai une responsabilité. Il dit, nous sommes maintenant devenus esclaves de Dieu. Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave obéit à son maître. Nous sommes devenus esclaves de Dieu, et dans ce cas de figure, nous avons pour fruit, le fruit de notre vie. Ce qui émane de nous, c'est la sainteté. La pureté, que la Bible appelle encore la piété. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.
Très bien. L'autre Laurent, toujours dans cette partie de la chanson, il y a des fois quand on pose des questions à des chrétiens, iras-tu au ciel? On te répondra par la grâce de Dieu. Alors, peut-on être vraiment certain sur cette terre? Quand on dit par la grâce de Dieu, est-ce une manière de dire qu'on ne sait pas ou bien c'est une manière d'esquiver la réponse à la question posée?
Ok, cette expression, on peut s'en servir comme une sorte de paravent pour se cacher derrière une réalité qui est tout autre.
Voilà.
Mais en fait, ici, dans ce monde, quand quelqu'un est authentiquement converti, il a en lui la certitude qu'il est enfant de Dieu.
Okay.
Et comme enfant de Dieu, et il n'a pas pour domicile permanent ce monde-là.
Okay.
D'accord? D'abord, la personne agit par conviction. Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça commence par là. La personne sait de qui il ou elle est enfant. Et si tu sais de qui tu es enfant, il y a des choses que tu ne feras pas. Ça, c'est tout à fait normal. D'accord? Très bien. Deuxième chose, après la conviction, il y a la communion. L'Esprit produit la conviction pour que commence maintenant une communion entre toi et l'Esprit. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ça veut dire que dans notre vie personnelle, dans notre vie intérieure, le même esprit qui nous a donné la conviction que nous sommes enfants de Dieu, ce même esprit-là nous enseigne. Il y a des choses que Dieu t'enseignera personnellement.
Et là, en ce moment, tu n'as pas besoin de ton pasteur pour dire oui, ok, en tant que pasteur, j'approuve cet enseignement. Non, il y a des choses qu'il corrigera personnellement dans ta vie, dans ma vie. Et l'apôtre est en train de dire, et ici il parle de l'onction. Aujourd'hui, quand les gens parlent de l'onction, pour eux c'est une chose, c'est l'huile, c'est ce nom. Sous la nouvelle alliance, l'onction est une personne, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Et c'est lui qui nous rend capables d'être et de faire ce que Dieu veut. Autre chose, d'abord il y a la conviction que nous sommes enfants de Dieu, ensuite il y a la communion que nous avons avec lui, c'est ma responsabilité. Si je désire aller loin dans cette communion, ça deviendra plus fluide. Mais si je résiste aux injonctions de l'esprit, là je vais faire du surplace et je ne vais pas avancer. Le troisième élément, c'est la direction de l'esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où vient le vent, ni où va le vent. D'accord? Il en est de même, ou l'en est ainsi, de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, quiconque est né de l'esprit peut être dirigé par l'esprit, si cette personne se soumet à la direction de l'esprit. Frère, ce sera une catastrophe individuelle si dans votre vie, vous n'êtes pas en mesure de savoir comment l'Esprit de Dieu vous dirige. Ce sera une catastrophe. Parce que vous ne pouvez pas juste vous baser sur des hypothèses, des suppositions ou des connaissances qu'on a glanées selon notre arrière-plan, comment on a été éduqué, et notre tradition, autre, à mettre ça tout ça ensemble, et même la tradition d'église, mettre ça ensemble et décider que, ah, voilà ce que Dieu veut. La vie que nous avons en Christ est une vie spirituelle, et tout fonctionne à partir de l'esprit. Et donc, celui qui est né de l'esprit peut être dirigé par l'esprit si la personne se soumet à l'esprit.
Très bien. Ok. Nous allons continuer dans cette émission, mais en attendant, on va écouter, voir mon sauveur face à face encore une fois, jusqu'au deuxième couplet, et on va passer au commentaire avec l'autre Laurent.
Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. L'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi.
Oh, quel transport d'allégresse! Quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Dans le deuxième couplet de la chanson, l'auteur continue par exprimer sa joie de voir le Sauveur face à face. Et dans cette partie, et son allégresse, il exprime, à ton avis, l'autre Laurent, qu'est-ce qui explique cette joie de l'auteur?
Oh, la joie, il faut le dire, c'est l'action du Saint-Esprit, d'abord en nous. Okay. C'est lui qui produit en nous cette joie-là.
Oui.
Et aussi l'espérance que nous avons de voir le Seigneur. Okay. C'est-à-dire, en ce moment, il nous tarde.
Oui.
Il y a des moments où tu te dis, il me tarde de voir le Seigneur. Il y a des moments dans la prière où on lui en parle, dit Seigneur, j'ai bien envie de rentrer à la maison.
Ça me rappelle Paul, là. L'apôtre Paul qui dit, je suis pressé de tous côtés.
Je veux
rester ici en même temps, être de l'autre côté.
Et donc là, il y a d'abord l'espérance de voir le Seigneur. Romains chapitre 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.
Okay.
Tu vois, tous ces trois éléments-là,
la
justice, la paix et la joie,
émanent
de l'Esprit de Dieu.
Oui.
Et c'est en lien avec la conviction qu'il nous donne que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est cette espérance-là de voir le Seigneur qui te donne d'avoir cette joie-là par anticipation. Deuxième chose, c'est le fait qu'il y a des moments où vous voulez vous en aller. Et voir le Seigneur. Comme tu l'as dit, Philippiens chapitre 1, verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé. Je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement, pour votre joie dans la foi. Donc tu vois, ça là, c'est tout à fait normal hein, pour un véritable enfant de Dieu, le désir de partir, de quitter ce monde et d'aller à la maison.
Et il dit même que ce qui de beaucoup est meilleur.
Oui, bien sûr. Ah, oui.
Mourir est meilleur.
Oui. Comparé à l'autre côté, à moins qu'on n'ait pas eu cet aperçu là et c'est, qu'on vive comme ça.
Quand tu as lâché le mot, c'est tellement que Paul avait déjà des aperçus.
Oh, bien sûr, bien sûr. Plus tard, il va dire aux Corinthiens, écoutez, j'ai vu le ciel, j'ai entendu ce que l'homme naturel ne peut pas entendre et autres. Donc, il savait tout ce qu'il faisait. Tu sais, le degré de consécration d'un enfant de Dieu, le degré de sacrifice d'un serviteur, d'une servante de Dieu, est en réalité fonction de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu.
Okay.
D'accord ? Pour quelqu'un qui a vu et entendu et reçu de Dieu la direction ou ce que Dieu a mis dans son cœur, vous verrez que la marche de cette personne sera différente de quelqu'un qui est juste là dans la masse. Bon, on m'a dit d'aller à l'église, c'est pourquoi, hein? Et voilà, on m'a dit si je viens, il va me donner des vélos, des choses. Comme ça. Donc ici, lui, il dit, il veut rester, non pas parce qu'il veut construire des châteaux ici-bas. Il veut rester parce qu'il veut aider les autres frères et sœurs à avancer dans la foi, à croître. Lorsqu'un serviteur de Dieu commence, une servante de Dieu, comment pas mettre l'accent sur le maintenant? C'est-à-dire que quoi? Il veut posséder presque tout.
Le matériel.
Oui, et il fait tout pour s'accaparer de X et de Y. Vous savez qu'il a perdu la vision. Parce que quand quelqu'un a cette vision-là, qu'il dorme ou qu'il se réveille, tout ce qui l'anime, son désir-là, c'est de permettre à beaucoup d'entrer dans le royaume. Qu'est-ce que je dois faire pour que les gens viennent dans le royaume? Mais quand on ne commence pas à faire autre chose, qui en fait ne feront pas avancer le royaume, vous savez que la personne a perdu la vision. Mais vous allez voir, Paul, c'est comme à l'époque, là, tu sais, ces gens utilisaient de type de lampe où on mettait la mèche et autres. Là. C'est comme un feu qu'on allume, qui va brûler jusqu'au bout. Tu vois, quand on lit des livres, quand tu es jeune converti, on lisait les héros de la foi. Quand tu lis l'histoire de ces hommes-là, serviteurs de Dieu, tu les compares à ce que nous avons aujourd'hui, il y a une différence.
Et c'est ça qui a mis le feu en nous. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
On a lu ces livres, ces romans, ces ouvrages-là, ça a mis le feu. En nous, on s'est dit qu'on va se donner à Dieu, on s'est donné à plein, à 100%.
Très petit, on s'est livré et on vivait même comme de vieux serviteurs de Dieu parce qu'on avait des principes, on voulait plaire au Seigneur à tout prix. Mais aujourd'hui, quand tu regardes à gauche et à droite, la plupart courent derrière le matériel, recherchent la gloire, recherchent ceci, cela. Mais ceux-là, les gens de l'autre siècle-là, tout ce qui les motivait, c'est le salut des âmes. Qu'est-ce que je peux faire?
autant que faire se peut pour que X se convertisse, Y se convertisse. C'était ça leur vision, c'était ça leur passion. Aujourd'hui là, ceux que nous avons, ou celles que nous avons, ont-ils la passion des âmes? Est-ce qu'ils ont la passion des âmes?
Chacun va répondre. Hein.
Ah, est-ce que leur désir, ce qui brûle en eux, c'est de saisir toutes les occasions possibles pour prêcher l'évangile afin que des gens se réconcilient avec leur créateur? Tu vois, quand tu lis ce livre-là, et tu fais des, tu vas te demander toi-même, qu'est-ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui. Donc ici, Paul, c'est le désir qu'il a, s'il devait rester dans le corps là, c'est à cause du salut des âmes. C'est à cause de l'édification des saints. Ce n'est pas parce que Paul voulait, ok, j'ai fondé une église à Corinthe, il faut que j'aie une maison à Corinthe. J'ai fondé une église en Galatie, il faut que j'aie une maison en Galatie. J'ai fondé une église, à Thessalonique, il faut que, de chaque fois que j'y visiterai là, il faut que je dorme dans cette maison. Tout ça là, c'est quoi? Ce monsieur n'avait pas de temps pour ça.
Non, l'autre, ça va venir. On va reprendre la vision. On va revenir à la vision.
Le ciel attend. Il y a des gens qui meurent, qui sont Christ pendant que nous courons derrière le matériel. Dernier élément sur cet aspect de la question que tu as posé, c'est que Paul, sa vie est marquée par le fait qu'il voulait être agréable à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Tu vois, tout ce qu'il veut là, c'est être agréable au Seigneur. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Et ça, un serviteur de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, veut plaire au Seigneur, pas aux hommes.
C'est ça.
Veut être agréable au Seigneur, pas aux hommes. Et Paul a dit aux Galates, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je veux répondre aux moindres désiderata des gens autour de moi, je ne serai pas serviteur de Christ. Si je dois changer le message pour l'adapter aux désirs de X et de Y, je ne serai plus serviteur de Christ. Si je dois cesser de prêcher l'évangile de la croix, de dire aux gens ce qui est arrivé à Jésus à la croix, pourquoi il est mort. Si je dois changer ça, je dis non, écoutez, le milieu dans lequel vous êtes là, ce message va heurter les consciences parce que vous voyez, on vous a invité ici, c'est un dîner de gala, c'est quand même déjeuner entre des gens respectables et ils ont leur plat devant eux. Tu ne peux pas venir ici leur parler de Jésus en mentionnant le sang. Ils seront choqués, ils ne peuvent pas manger. Hein, ne parle pas de la croix ici. Il faut dire que Jésus les aime et que tout le monde lève la main et dit alléluia, alléluia, alléluia. Si je dois faire ça là, je ne serai plus serviteur de Christ. Ces choses-là, l'évangile que nous avons reçu, c'est ce que nous devons prêcher. Où que nous soyons, où que nous allions, c'est l'évangile de la croix que nous devons prêcher. On ne va pas changer le message pour faire plaisir à X ou à Y.
Très bien. C'est compris, hein, l'autre Laurent. Tu as parlé de l'action du Saint-Esprit qui met dans le compositeur cette joie-là, ce transport d'allégresse. Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là, quand je lis le couplet, et il dit, « Quand tes yeux baissés sur moi, me diront avec tendresse, je mourus pour toi. » Est-ce le fait d'écouter la voix de Dieu ne l'amène pas dans ce transport de joie?
Oui, mais ici, par exemple, l'auteur est en train de parler du point de chute de son cheminement. C'est-à-dire, quand il va arriver au ciel, là, le Seigneur le verra et lui dira, « Ah, j'ai versé mon sang pour toi. » D'accord.
Et ça, c'est également pour toi.
Oui, et pour toi. C'est-à-dire, si nous voulons être sincères, si nous considérons ce que Christ a fait pour que nous, là, que nous soyons sauvés, que nous devenions enfants de Dieu aujourd'hui, et même si l'idée nous traverse l'esprit d'être hypocrite, nous-mêmes, on aura honte.
C'est-à-dire,
quand tu vois la croix, tu vois son sacrifice.
Oui.
Est-ce que je peux utiliser sa parole pour arnaquer les gens, c'est-à-dire leur faire croire autre chose en prenant leur argent? Ça, c'est juste un exemple entre autres choses.
D'accord.
Est-ce que en tant que chrétien,
je
vais mener une double vie? J'ai une vie avec les chrétiens, j'ai une autre vie.
En famille,
dans le secret, hors de la vue des chrétiens. C'est-à-dire que quand je suis à Jérusalem, je suis un héros. Quand je suis à Jéricho, je suis zéro. C'est-à-dire que je ne suis pas sérieux. Si on considère ce que Christ a fait pour nous, est-ce que je vais quitter le champ, l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé, pour aller m'aventurer sur un terrain là où il ne m'a pas appelé? Est-ce que je vais laisser mon appel pour faire autre chose que ce à quoi il m'a appelé? C'est-à-dire, il y a tellement de considérations. Si on considère pourquoi il est mort pour moi, pourquoi il est mort pour toi, pourquoi il est mort pour nous, est-ce qu'on ne serait pas, au moins pour exprimer notre gratitude à son endroit, faire preuve de sincérité dans notre marche? Voilà ce que je cherche, la sincérité dans notre marche avec lui. Quand je lis le Nouveau Testament, je vois quelqu'un comme Saul de Tarse, qui en réalité faisait ce qui était contraire au plan de Dieu. Mais dès qu'il a découvert, il a compris pourquoi il est venu dans ce monde, mais le monsieur là, il ne s'est pas détourné un seul instant pour dire, je vais aller faire autre chose. Quand je prends les apôtres et autres, et quand je lis le Nouveau Testament, je vois le défi de ces gens-là. Est-ce qu'en tant que chrétien, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, au moins, par amour pour Christ là, pour ce qu'il a fait pour nous, pour le sang versé, pour son agonie, et pour tout ça là, au moins pour ça, par appréciation, est-ce que je ne serai pas un chrétien honnête? Est-ce que je ne serai pas honnête? Est-ce que je ne serai pas sincère? Est-ce que c'est une gloire pour nous qu'on dise de nous que voilà, il fait ça, elle fait ça malgré qu'elle dise qu'elle est chrétienne, malgré qu'il dise qu'il est chrétien? Est-ce que c'est une gloire? Est-ce que c'est une gloire pour nous de donner à l'ennemi de rire au nez de Jésus, de lui dire, lui aussi tu dis tu l'as sauvé, non? Regarde ce qu'il est en train de faire. Elle aussi tu l'as sauvé, non? Regarde ce qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'on ne peut pas prendre conscience du fait que, même si naturellement tu es faible, est-ce que tu ne peux pas décider, Seigneur, quand je pense à ce pourquoi tu es allé à la croix, je ferai tout pour ne pas blesser ton cœur. Est-ce qu'on ne peut pas prendre de telles résolutions et vivre une vie chrétienne conséquente? C'est juste une question que je me pose à voix haute.
Très bien. Dans le chant ou le cantique que nous sommes en train d'étudier, il faut dire que le cantique écouté est juste composé de deux strophes et du refrain, ce qu'on a écouté. Mais en réalité, c'est trois strophes et un refrain. Alors, la troisième strophe n'est pas dans le cantique écouté, diffusé sur la radio.
Ouais.
Et qu'est-ce qui est dit, l'autre Laurent, dans ce troisième couplet? Qu'est-ce qui est dit réellement?
Ouais, dans le troisième couplet, il est dit quoi? Ta gloire est encore voilée, d'un voile ensanglanté, bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Là, l'auteur est en train de parler du fait que même si le Seigneur se révèle à nous, ce sera dans les limites de ce que nous pourrons supporter.
Ok.
D'accord?
Ok.
Même s'il nous parle, ce sera dans les limites de ce que nous pourrons supporter.
Mais très souvent, quand il se révèle aux gens ici-bas, les gens tombent par terre, ils perdent...
Ça aussi, c'est dans les limites de ce que nous pourrons supporter. Oui, oui.
Okay.
Parce que notre corps, dans son état de déchéance, ce que Adam et Ève nous ont légué là, ne peut pas supporter l'éclat. Même un ange là, quand un ange devient visible, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que il vient d'un monde qui est différent de ce monde-ci. Voilà pourquoi quand tu lis dans les Écritures, tu vas voir quand Dieu venait vers Abraham, il venait sous une forme humaine. D'accord? Il venait sous une forme humaine et parce que il voulait développer cette camaraderie, ou bien vous permettez l'expression, l'amitié. C'est-à-dire que plus tard, Dieu l'a appelé son ami. Mais si chaque fois il vient, il lui fait peur. Le monsieur ne va pas interagir avec lui sur la base d'amitié, mais de crainte et de peur servile, tout ça là. Donc, ici, pour l'heure, tout ce que nous recevons de lui est dans la mesure de ce que nous pourrons supporter. Maintenant, quand il dit « ta gloire est encore voilée, de voile ensanglantée », vous savez que le Seigneur... quand il est mort sur la croix, l'Écriture nous a donné de comprendre qu'il est allé aux cieux avec son propre sang. Et en ce moment, il était à la fois le sacrifice et le porteur du sang du sacrifice. C'est-à-dire, il était l'agneau et il était aussi le souverain sacrificateur, puisque sous l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur portait le sang derrière le voile. D'accord? Pour aller devant le propitiatoire, pour que, au vu du sang, la justice de Dieu soit apaisée et que Dieu soit miséricordieux à l'endroit du peuple. D'accord? Donc, c'est ce qu'il a fait dans le temple réel. qui n'est pas fait de main d'homme, qu'il est là, il est allé. Donc, là, nous comprenons que, puisque le Seigneur est allé par là, vous le voyez ensanglanté, portant son sang. Donc, c'est par référence à cela que dans Hébreux chapitre 6, verset 19, il a dit ceci: cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous. Il est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Donc, dans sa position de souverain sacrificateur, quand il y allait, c'était en même temps l'agneau. C'est pour cela que quand Jean a reçu la révélation sur l'île de Patmos, quand il a vu le ciel, il a vu celui qui est assis sur le trône et un agneau était là comme étant immolé. D'accord? Par référence à l'œuvre expiatoire du Seigneur à la croix. Hébreux chapitre 10, là, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Tu vois? C'est au moyen de ce sang-là que nous pourrons entrer. Et nous ne pourrons pas entrer avec nos péchés. C'est pour cela que nous devons veiller sur nos vies. Tout à l'heure, j'ai parlé de Romains chapitre 6, 22, où l'Écriture nous enjoint de pouvoir vivre dans la sainteté. Et aujourd'hui, quand on en parle, certaines personnes pensent que non, on peut juste vivre n'importe comment. Et puis bon, Dieu, quand il nous voit là, le sang de Jésus l'aveugle, il pense qu'on est saint, même si on n'est pas saint, le sang est d'elle. Donc c'est une fausse doctrine qu'on enseigne aux gens. Il y a une responsabilité que nous avons en tant que chrétiens de mener une vie qui honore Dieu. Donc ici, il est entré dans le sanctuaire, il a versé son sang. Donc là, nous avons une libre entrée par la route nouvelle vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Et donc là, sachant qui Jésus est, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Un chrétien doit être sincère. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Donc là, quand on résume tout ceci, il est possible pour un racheté, dès ici-bas, d'avoir des aperçus du ciel, c'est tout à fait normal, de recevoir des visitations du Seigneur, c'est tout à fait normal, d'entendre la voix du Saint-Esprit qui lui parle, c'est tout à fait normal. Et il est donc normal, et que déjà qu'on commence par faire ces expériences, nous appuyons sur les promesses de la parole de Dieu, c'est ce qui nous pousse à nous dire: ah, je ne veux rien faire qui puisse amener le Seigneur à ne plus me visiter. Je ne veux pas mener une vie qui va le déshonorer. Je ne veux rien faire qui puisse blesser son cœur. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Cette communion-là, ce n'est pas arrivé au ciel. Tu vas dire, ah, ok, et Dieu là, il est où? C'est qui est Dieu ici? Et lui là, c'est qui? Non, c'est dès ici que nous le connaissons. Nous le connaissons dès ici, dans notre esprit. C'est pour cela que dans Jean chapitre 17, il a dit quoi? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est dès ici-bas que cette connaissance-là commence. Et arriver au ciel, ce n'est que le prolongement de ce que nous avons commencé entamé ici.
Très bien. Voilà. L'autre Laurent, que Dieu te bénisse abondamment. Vous, amen, également, vous qui nous avez suivis de par ces ondes évangéliques, nous vous remercions et nous disons que si le Seigneur tardait à revenir, la semaine prochaine, nous serons encore sur cette antenne pour un autre cantique à étudier. Mais en attendant, on vous laisse avec la chanson. Permettez que je vous lise encore les paroles de ce cantique, de ce hymne, et je vous laisserai avec la chanson. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Deuxième couplet, ô quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Ta gloire est encore voilée, c'est le troisième couplet, ah, d'un voile ensanglanté, bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Je vous laisse avec la chanson « Voir mon Sauveur face à face ». Bye bye.
voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. L'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Je serai